France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20, Christelle Rebière.
Une première ministre de 34 ans, femme, mère et glamour, c'est l'image que l'on garde de Sanna Marin. Première ministre de la Finlande durant 3 ans et demi, une image de papier glacé, un style décontracté qui lui a valu des attaques sexistes. Une première ministre, devait-elle faire ça? Elle sort un livre de mémoire, on va en parler avec elle dans un instant. Le Made in Europe attendra dans le monde à l'endroit. Frédéric Saïs nous dira pourquoi l'Union européenne repousse encore ses mesures protectionnistes. L'Autriche, elle, est membre de l'Union depuis 30 ans. Le reportage d'Un jour dans le monde nous y emmène. Un pays prospère, mais avec des citoyens en plein doute.
À cause de l'Union européenne, nous avons accumulé beaucoup de dettes. Le mieux pour nous aurait été de ne jamais adhérer à l'Union européenne.
Reportage signé Isor Iyas. L'Australie, le Japon et des pays en guerre ou complètement sinistrés, ce seront les 3 étapes de Sous les radars. Guillaume Oda vous parlera notamment du dark tourisme. Et Ilan Amor-Youssef, dans Écrire le Monde, nous racontera la guerre d'influence de la CIA durant la guerre froide. Voilà, vous avez le programme, allons-y.
Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat.
Je tiens à remercier le Parlement de la confiance qu'il m'a accordée pour ce poste à responsabilité. C'était le 10 décembre 2019. À 34 ans, la Finlandaise Sanna Marin devenait la plus jeune chef de gouvernement au monde, à la tête d'une coalition de 5 partis, tous présidés par des femmes dont 4 avaient moins de 40 ans. Entre fascination médiatique et critique, voire violence misogyne, celle qu'on surnommait la première ministre rockstar, au style décomplexé, a séduit, choqué parfois, clivée durant les 3 ans et demi qu'elle a passé au pouvoir. Aujourd'hui, Sanna Marin, retirée de la politique, publie ses mémoires. L'espoir en acte, le courage de diriger, aux éditions Flammarion. Bonsoir Sanna Marin.
Good evening.
Vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de femme de pouvoir. Pourquoi ?
Je crois que j'ai un rapport conflictuel avec cette idée d'une femme de pouvoir ou d'une dirigeante au féminin, parce que bien sûr, dans le champ politique, on est avant tout un dirigeant ou une dirigeante, et en particulier dans un gouvernement de coalition, quand on doit travailler avec d'autres personnes, qu'on soit un homme ou une femme, on travaille de la même façon. On est en permanence en train de négocier sur différents sujets, de trouver des compromis, des consensus. Donc je ne suis pas sûre que le fait d'être une femme en tant que dirigeante, ce soit ça qui définisse le travail. En même temps, je comprends aussi, malheureusement, à quel point il est rare, encore aujourd'hui, dans notre monde, d'avoir des dirigeantes femmes, en particulier des jeunes dirigeantes. Et je vois aussi le besoin qu'il y a de soutenir les femmes et de mettre en avant, justement, ces dirigeantes femmes. Donc j'ai, encore une fois, une des sentiments un peu complexes sur cette expression de la dirigeante femme.
Alors, dans votre livre, vous écrivez « Du jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai refusé d'entrer dans le moule traditionnel au nom des valeurs ». Quelles sont ces valeurs ?
Quand j'étais jeune, la politique, ça me semblait quelque chose de très lointain de la réalité qui était la mienne. Je voyais des hommes plus âgés, en costume gris, c'était un monde où je n'avais pas ma place. Et en tant que femme politique, j'ai aussi voulu montrer aux gens qu'il y a de la place pour des personnes différentes, qu'on ne doit pas correspondre à un certain moule. On peut être nous-mêmes, on peut être jeunes, on peut être des femmes, on peut venir de différentes classes sociales. Il y a de la place pour différentes personnes dans nos démocraties. C'est pour ça aussi que c'était important pour moi d'être fidèle à ce que j'étais, de ne pas changer qui j'étais, simplement parce que j'étais entrée en politique et que j'étais devenue parlementaire et ensuite première ministre.
Vous avez revendiqué qui vous êtes. Vous l'avez revendiqué au nom de votre statut de femme, de mère, au-delà du pouvoir. On l'entend, vous le faites encore aujourd'hui. Votre livre vient de sortir dans 17 pays en même temps. Ça montre, au fond, à quel point on a fait de vous une icône. Pourquoi cette notoriété mondiale, à votre avis ? Parce que, quelque part, vous n'étiez ni Thatcher, ni Merkel ?
Oui, bien sûr, je crois que la raison évidente, C'est que je ne suis pas justement la femme politique typique. Et donc, ça a attiré l'attention. Quand j'ai été élue, nommée première ministre de Finlande, je n'avais que 34 ans. Et ça, sur le plan international, c'était quelque chose de nouveau. C'est aussi assez triste de penser qu'il n'y a pas plus de jeunes dirigeants et dirigeantes. C'est assez triste que ça ait fait l'actualité, que c'était une histoire exceptionnelle, mais c'est un fait. Et j'espère que dans l'avenir, nous aurons davantage de mixité, différents types de leaders, et que ce ne sera plus quelque chose d'inhabituel. J'essaie de développer, d'encourager la confiance et l'assurance des femmes, de les encourager à poursuivre leurs rêves et à essayer aussi d'atteindre le pouvoir, parce que les femmes ont droit à la moitié du pouvoir et des ressources du monde, et il faut aussi qu'on encourage justement leur confiance pour qu'elles se saisissent de ce rôle et qu'elles s'en croient capables, qu'elles se fassent confiance.
Mais ce n'est pas si simple, puisque tout ça a réveillé des critiques sexistes, misogynes. Soudain, on a commencé à parler de gouvernement rouge à lèvres. Et il y a eu des scandales, notamment une sortie en boîte durant la pandémie. Un autre très médiatisé, une vidéo publiée en août 2022 sur les réseaux sociaux où l'on vous voit en train de faire la fête avec des amis et des célébrités finlandaises. Vous avez même dû vous soumettre ensuite à un contrôle antidrogue pour prouver que vous n'aviez pas pris de cocaïne. Comment avez-vous vécu cette séquence-là ?
It's obvious that we still have different standards. Évidemment, on a des attentes différentes vis-à-vis des femmes et des hommes, ça se voit. Personne ne demanderait jamais à un homme politique homme comment on peut être dirigeant, comment on peut faire son travail quand la veille on est allé voir un match de foot avec des amis et bu une bière. C'est une question qu'on ne poserait jamais à un homme. Mais en tant que femme, on est en permanence observée, évaluée, analyser de l'extérieur notre comportement, nos actions, notre look aussi, notre apparence, c'est quelque chose qui est analysé, évalué, et on pense, la société croit avoir le droit, en fait, justement, et la responsabilité d'évaluer les choix des femmes. Les hommes ne sont pas confrontés à ce type de questions, à ce type de réalité. On ne leur pose pas la question de savoir s'ils sont sortis la veille, de ce qu'ils font de leur temps libre, de comment être de bons dirigeants si on a des enfants. Donc il y a effectivement une égalité là-dessus. Et je l'ai rencontrée en tant que dirigeante, mais ça ne concerne pas que la politique. Je crois que les femmes, en général, sont confrontées à ça. Elles sont traitées différemment.
Vous dites que c'est un problème d'inégalité, mais c'est aussi le problème de la vision que vous avez de votre fonction. Vous écrivez « Mon véritable crime politique était de ne pas me comporter, de ne pas avoir l'apparence que l'on attendait d'un Premier ministre. »
It is true.
C'est vrai.
We found out that
on a constaté
actual crime wasn't something
que
that I did,
le crime que j'avais commis, c'était en réalité pas quelque chose que j'avais fait, parce qu'il n'y a rien de mal à sortir pendant ses vacances d'été, à s'amuser, à chanter ou à danser. Et ça, en réalité, ce n'est pas un délit. Le problème, c'est que je n'avais pas l'apparence qu'on attendait de moi ou le comportement qu'on attendait de moi, le comportement auquel on est habitué, parce que j'appartiens à une autre génération. Je n'ai pas le même âge, que je passe mon temps libre différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir chez les politiciens. Et donc pour quelqu'un, pour certaines personnes en tout cas, ça a semblé inapproprié. Mais j'ai quand même eu aussi beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension. Tout le monde ne m'a pas jugé. Il y a eu aussi énormément de soutien. Il y a aussi beaucoup de questions sur ce harcèlement des médias qui insistait sur cette histoire qui n'avait rien d'intéressant.
Venons-en au fond de ce que vous avez dû faire durant votre mandat qui a duré à peu près 3 ans et demi. Vous avez dû affronter la crise du Covid-19 qui a été un défi énorme pour tous les dirigeants du monde. Et puis, le 24 février 2022, la Russie a lancé ce qu'elle appelle son opération spéciale en Ukraine, c'est-à-dire son invasion. Racontez-nous comment vous avez vécu, vous, ce jour-là, quand on sait que la Finlande compte 1340 kilomètres de frontière avec la Russie.
My term as a prime minister and our government's term was filled with big crises.
Première ministre et le mandat de mon gouvernement a été rempli de crises majeures. Le Covid, l'annexion de l'Ukraine par la Russie, l'entrée dans l'OTAN, c'était vraiment des gros sujets, des gros dossiers et ça a été des années fatigantes parce qu'il a fallu affronter tous ces problèmes. Je me souviens parfaitement de ce matin où on s'est réveillé et où c'était la guerre en Europe. Pas seulement la guerre dans l'histoire, mais la guerre aujourd'hui. Et bien sûr, j'étais atterrée pour l'Ukraine, pour les citoyens ukrainiens. Et je pense que tous les citoyens de Finlande comprennent leur douleur, comprennent ce chagrin parce qu'on partage l'histoire qu'ils ont avec la Russie. Nous avons aussi été soumis au pouvoir russe. Nous avons combattu et perdu des terres avec l'Union soviétique. Et nous avons continué à vivre en tant que voisins.
Vous, Sanna Marin, ce matin-là, la femme, la première ministre et la femme que vous êtes qui a une petite fille, elle pense à quoi ?
Je l'ai
dit, j'étais atterrée, vraiment, pour l'Ukraine. Et très déçue de voir qu'on se retrouvait dans cette situation. Donc cette douleur, je l'ai ressentie. Cette douleur, je l'ai ressentie comme tous les Finnois à cause de notre histoire. Et puis on a tout de suite convoqué le Conseil européen et je me souviens que le président Zelensky était là et c'était extrêmement chargé, l'atmosphère était très lourde, il y avait vraiment une peine, un chagrin profond pour ce qui se passait, ce qui arrive à l'Ukraine, mais aussi pour la démolition, la destruction en cours de toute l'architecture de la sécurité de l'Europe. C'était vraiment un moment de bascule pour l'Europe et je crois qu'il faut qu'on comprenne à quel point il est important, à quel point ces années qu'on est en train de vivre, cette période de changement historique est cruciale. Si l'Europe aujourd'hui n'agit pas comme il le faut, en défendant nos valeurs, en défendant nos principes, aux côtés de l'Ukraine, c'est un problème que nous continuerons à rencontrer. C'est la même chose nous attend. Nous ne devons pas faire la même erreur qu'en 2014, quand la Russie a annexé la Crimée. La réponse a été trop faible à l'époque et Poutine a pensé qu'il pouvait simplement entrer dans Kiev et prendre ce pays parce que il avait justement l'expérience de la réponse très faible qu'on avait eue à l'époque. Aujourd'hui, il y a différentes propositions de paix sur la table, mais si nous montrons de la faiblesse, nous ne rencontrerons que davantage d'agressivité et davantage de conflits. Il faut qu'on soit plus puissant et qu'on apprenne de nos erreurs.
Et qu'on soit fort aussi vis-à-vis de Donald Trump, qui essaie de contourner l'Europe et qui ne voit plus ce continent que comme un vieux continent qui va être dépassé par l'immigration.
Europe has to be more strong.
Oui, l'Europe doit être plus forte.
Wishing that we would see more strong leadership.
J'espère qu'on verra davantage de dirigeants affirmer cette force en Europe. Je crois que nous manquons de force vive dans beaucoup de domaines. Je crois qu'il faut être très fidèle à nos valeurs, aux valeurs européennes, aux principes européens, à la démocratie, à la liberté. Il faut les défendre. Le droit des pays indépendants à décider par eux-mêmes. Et puis, il nous faut aussi une direction très claire, savoir où nous allons et comprendre aussi les options réalistes qui s'offrent à nous. Les options réalistes aujourd'hui, ce n'est pas que si nous donnons à la Russie ce qu'ils veulent, nous aurons la paix. Le réalisme, c'est ce qu'on a déjà appris auparavant, c'est ce qu'on a déjà vu. Si on cède à l'agresseur, l'agresseur continue. Il faut qu'on comprenne ces options-là et qu'on développe une stratégie fondée justement sur ces valeurs et ces options réalistes, cette direction que nous voulons prendre. Et c'est quelque chose qui m'inquiète parce que nous ne voyons pas ça chez les dirigeants aujourd'hui en Europe, cette compréhension du fait qu'on est perçu comme faible, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. On peut être fort ensemble.
Alors, vous êtes retirée de la vie politique aujourd'hui, Sanna Marin, mais vous vous intéressez toujours à la géopolitique, on l'entend. Vous travaillez pour le Tony Blair Institute for Global Change, dont on avait entendu parler notamment pour son projet de reconstruction de Gaza avec Trump. Vous donnez des conseils stratégiques à des pays. Vous travaillez aussi sur l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. En quoi ça consiste rapidement ?
I work in TBI.
Donc je travaille effectivement pour le TBI, le Tony Blair Institution for Global Change. Nous conseillons les gouvernements, nous travaillons de près avec beaucoup de gouvernements dans 40 pays dans le monde. Je me concentre en particulier sur l'Ukraine et la Moldavie. J'essaie d'aider ces pays dans le processus d'accession à l'Union européenne et d'apporter tout le soutien que je peux au gouvernement et aux institutions. Nous avons différents projets avec ces pays, mais je travaille aussi évidemment dans d'autres pays. Et nous essayons de les aider dans leur mission.
Aujourd'hui, Sana Marine, vous diriez que vous êtes quoi ? Une femme politique ou une femme d'influence ?
Bien sûr, je suis une femme politique fondamentalement dans l'âme. Je crois que je serais incapable de cesser d'être cela. Je crois que j'ai envie de changer le monde, d'en faire un endroit meilleur. Simplement, je travaille d'un endroit différent aujourd'hui, dans une position qui n'est plus la même, non pas en tant que dirigeante politique, mais toujours en menant un travail politique. Je dirais qu'en tout cas, je suis du genre à vouloir changer le monde.
Merci, merci infiniment d'être passée dans ce studio. Sana Marine, je rappelle le titre de votre livre. L'espoir en acte, le courage de diriger, c'est publié chez Flammarion. Et merci aussi à Marguerite Capelle qui a assuré la traduction simultanée de cette interview.
Merci.
La suite, c'est avec vous, Frédéric Saïs, et vous remettez le monde à l'endroit.
Et face aux Américains et aux Chinois, faut-il protéger les marchés européens ?
Et ce sera juste après ça, Alani, This is why.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do. When mixed with an I love you, you make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the I'm scared.
Soleil dans la grisaille, un extrait de son album baptisé Sunshine Music, justement.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le monde à l'endroit. Frédéric Saïs, ce soir, vous nous parlez de la préférence européenne.
Et commençons d'ailleurs par un test. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être dans votre voiture en ce moment. Sauriez-vous dire si cette voiture a été fabriquée en Europe ? Pas toujours facile de savoir. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de la carrosserie, du volant, du moteur produit en Europe ou bien à l'autre bout du monde ? Ce n'est pas forcément très clair, y compris pour les consommateurs les plus attentifs. Alors c'est justement pour ça que la Commission européenne veut définir précisément précisément ce que c'est que le Made in Europe. Elle veut imposer une sorte de label. L'idée, ensuite, ce serait de réserver les bonus et autres subventions seulement à ces véhicules fabriqués dans l'UE. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les aides à l'achat peuvent concerner tous les constructeurs. Avec cette mesure, l'Europe cherche à endiguer le déferlement de véhicules chinois. Cette année, pour la première fois, la Chine a exporté plus de voitures en Europe que l'Europe n'en a exporté en Chine. Alors si on ne bouge pas, on risque de tuer notre industrie, alerte un diplomate français, d'où ce plan de la Commission européenne.
Ce plan qui devait être présenté officiellement aujourd'hui, mais qui a été repoussé à plus tard. Pour quelle raison?
Oui, c'est assez incompréhensible. Alors même qu'on nous dit qu'il y a urgence, ce plan ne sera pas dévoilé avant le 28 janvier, dans un mois et demi. Un plan qui doit aussi inclure une préférence européenne pour les marchés publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si votre mairie veut passer une commande, qu'elle puisse choisir non pas le moins cher, mais le produit fabriqué en Europe, même si la facture est un peu plus salée. Cela revient à repenser les règles de la concurrence. Alors pourquoi ce plan est-il repoussé à l'année prochaine? Officiellement, il s'agit de le peaufiner, mais ce n'est pas la seule raison. En coulisses, cette notion de préférence européenne, Christelle, crispe plusieurs pays au sein des 27. Le Portugal, la République tchèque, les pays scandinaves, 9 États appuient sur le frein. Dans un texte commun, ils mettent en garde cette préférence européenne. Ça peut être contre-productif, ça peut faire monter les prix et pire, cela peut exposer nos entreprises à nous à des mesures de rétorsion à l'étranger, œil pour œil, dent pour dent et préférence pour préférence.
Et derrière ces divisions, Frédéric, il y a une question presque philosophique, pour ou contre le protectionnisme?
Pour, répond la France, Paris est le principal moteur de cette préférence européenne. La vision française, c'est qu'au moment où les États-Unis se protègent avec leurs droits de douane, au moment où la Chine inonde les marchés mondiaux, nous serions bien bêtes de ne pas nous aussi nous protéger, en tout cas pour les secteurs stratégiques comme l'automobile ou l'acier. Mais cette position se heurte à celle de pays européens beaucoup plus favorables au libre-échange. La Suède, la Finlande, par exemple, plaident pour que l'Europe refuse cette spirale, celle de la fermeture commerciale, fermeture assimilée à une sorte de nationalisme belliqueux. Et l'Allemagne, dans tout ça, eh bien, elle se rapproche un peu des positions françaises, surtout depuis qu'elle voit ses marques automobiles qui souffrent de la concurrence chinoise. Bref, vous l'aurez compris, en matière de protectionnisme, les 27 appuient à la fois sur l'accélérateur et sur le frein, ce qui, quand on parle de voiture, est assez peu recommandée, qu'elle soit made in Europe ou pas d'ailleurs.
Oui, effectivement, le stop and go, c'est pas terrible. Merci Frédéric, à demain. Le reportage d'un jour dans le monde, ce soir, nous emmène en Autriche. Le pays fête cette année les 30 ans de son entrée dans l'Union européenne. Située en plein cœur de l'Europe, la République alpine de 9 millions d'habitants profite largement de son adhésion, notamment sur le plan économique. Pourtant, les eurobaromètres, ces études d'opinion réalisées à l'échelle de l'Union européenne, montrent année après année que l'Autriche est l'un des pays les plus insatisfaits de l'UE. Alors pourquoi ce paradoxe? Suivons Isorias.
VMS est une PME à l'ambiance familiale installée dans un petit village, Zwerndorf, à 45 km à l'est de Vienne, à la frontière avec la Slovaquie. On y fabrique des machines appelées Coliminder, capables de mesurer la qualité de l'eau en 15 minutes. Ce sont ces machines, par exemple, qui ont été utilisées pour surveiller la qualité de la Seine lors des Jeux Olympiques de Paris. 56% du chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros de cette PME est réalisé dans l'Union européenne, qui subventionne par ailleurs des projets de recherche auxquels participe cette PME. Son patron, Wolfgang Vogel, avoue pourtant un certain scepticisme vis-à-vis de l'UE.
Un des effets positifs de notre adhésion à l'Union européenne est que ça facilite les processus liés à une vente. Mais les réglementations sont les mêmes pour les grandes que pour les petites entreprises, ce qui favorise les grandes et désavantage les petites. Et il en va de même pour l'agriculture, par exemple.
Si l'Autriche quittait l'Union européenne, elle perdrait 7 à 8 points de PIB, selon une étude de l'Institut Vifo, qui montre à quel point le pays profite de son adhésion sur le plan économique. Pourtant, seuls 60% des Autrichiens se disent convaincus que leur pays bénéficie de son adhésion à l'UE, contre une moyenne de 73% pour les 27, selon la dernière enquête Eurobaromètre. L'Autriche est ainsi l'un des pays les plus insatisfaits de l'UE. C'est pour comprendre cette insatisfaction et la combattre que Ruya Bouga parcourt l'Autriche depuis 2 ans. Cette jeune bénévole de l'association EGFE anime des ateliers sur l'Union européenne dans les écoles du pays, souvent à la campagne. Aujourd'hui, direction une école professionnelle à Amstetten, en Basse-Autriche.
Alles klar.
C'est un vrai dialogue qui s'engage entre Ruya et les élèves âgés de 16 à 18 ans sur des thèmes variés, la guerre en Ukraine, la neutralité autrichienne, mais aussi la désinformation.
Combien de temps vous passez sur TikTok ou Instagram ? Regardez sur votre téléphone, je veux savoir. Oh, ici nous avons 10 heures. Je ne sais pas combien d'entre vous reçoivent des contenus faits par l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui les deepfakes sont très bien faits et nous allons voir ce que l'Union européenne fait pour lutter contre cela, oui ?
Moi, je voudrais que ce soit vérifié au sein de l'UE, par exemple, pour savoir si telle chose est faite par des humains ou uniquement par l'intelligence artificielle.
Absolument, mais nous sommes les premiers dans le monde à avoir adopté une loi sur l'IA.
À la fin de l'atelier, la plupart des élèves ont l'impression d'avoir appris des choses. Certains, comme Tobias, avouent aussi qu'ils n'ont pas pour autant changé d'avis sur l'Union européenne.
Je pense que nous nous débrouillons très bien tout seuls. À cause de l'Union européenne, nous avons accumulé beaucoup de dettes et l'UE ne gère pas l'économie comme je le souhaiterais. L'intervenante a dit qu'on ne peut pas vraiment comparer la Suisse et l'Autriche, mais moi je pense que si. Depuis que nous sommes dans l'UE, l'écart avec la Suisse s'est creusé plutôt que de se réduire. Le mieux pour nous aurait été de ne jamais adhérer à l'Union européenne.
Ruya Bouga est-elle décidée à poursuivre ses ateliers, convaincue qu'une meilleure connaissance de l'Union européenne assurera un meilleur avenir aux Européens, en particulier aux jeunes.
Ce qui me rendrait heureuse, c'est que cela serve à une prise de conscience, qu'ils se disent « j'ai appris quelque chose de nouveau, un sujet que j'aimerais approfondir, car nous vivons tous dans l'Union européenne et nous devons contribuer à la façonner. Cela commence tout simplement par aller voter, mais on peut aller plus loin, s'organiser politiquement, manifester, etc. Parce qu'on voit que cela a un effet, nous sommes la masse et ici il s'agit de notre avenir. »
Les Autrichiens souhaitent d'ailleurs, dans leur majorité, rester dans l'Union européenne.
Le reportage signé Isor Ias. Et pour aller jusqu'à 19h, Guillaume Oda sous les radars.
Sous les radars au large du Japon, dont l'espace aérien est frôlé par des chasseurs chinois, ça arrive, mais par des bombardiers russes également, et ça c'est nouveau.
Et Ilana Moriousef, comme tous les mercredis, écrire le monde.
Eh bien on parle de guerre d'influence avec le book club de la CIA de Charlie English.
Vous êtes bien sur France Inter, ne changez rien. Voici le succès de l'année 1977, quand Stevie Wonder rendait hommage au jazz et à Duke Ellington, Sir Duke. Sir Duke, entre jazz et funk, Guillaume Oda maintenant repêche l'actualité internationale passée sous les radars.
It's very-
Elle ne sait pas, cette jeune aborigène australienne, si ses trois frères détenus dans la banlieue de Sydney rentreront vivants après leur peine de prison.
Elle s'appelle Yesha Murphy, cette jeune femme que l'on vient d'entendre, descendante des premiers peuples d'Australie, interviewée par une chaîne de télé locale à l'extérieur d'un tribunal. Pourquoi ? Parce que l'Australie découvre avec stupeur et la publication d'un rapport de l'Institut de criminologie que cette année, sur les 113 personnes mortes en détention dans ce pays, figurent 33 aborigènes, soit presque un tiers. C'est un chiffre qui assomme là-bas littéralement. D'abord parce que les aborigènes, leurs descendants, ne représentent que 4% de la population australienne. Mais surtout, et c'est cela qui choque, près de la moitié de ces décès en prison ont frappé des aborigènes non condamnés, en détention provisoire et souvent, dit le rapport, pour des infractions mineures. En cause, plus de violence à leur encontre, un accès plus difficile aux soins, dans un pays où les aborigènes ont en moyenne 15 fois plus de risques d'être emprisonnés que les blancs, avec ces chiffres sombres. L'Australie rouvre ces jours-ci une blessure qu'elle croyait refermée.
Le ton de ce journaliste japonais est très sobre et pourtant Tokyo fulmine. Des bombardiers russes ont frôlé l'espace aérien du Japon avec des avions chinois.
Et ça s'est passé hier au large d'Okinawa, une ville située sur un petit archipel japonais à équidistance, 650 km environ, de l'île principale qui abrite Tokyo, la capitale, et d'une autre île dont on parle beaucoup, au cœur de vives tensions dans la région, spécialement ces dernières semaines entre la Chine et le Japon. Je parle évidemment de Taïwan. Concrètement, plusieurs appareils russes escortés par des chasseurs chinois ont été repérés par l'armée japonaise dans une zone où ils sont censés s'identifier. Parmi ces avions figurait au moins un Tu-95 russe, un bombardier stratégique, c'est-à-dire à capacité nucléaire. Alors, rien ne dit que les appareils russes et chinois, environ une dizaine officiellement en vol d'entraînement, étaient équipés d'armement. Mais en termes militaires, on appelle cela du signalement stratégique. C'est un moyen d'envoyer des messages, de faire monter la température. Et Dieu sait qu'elle grimpe depuis que la nouvelle première ministre du Japon a déclaré qu'une invasion de Taïwan par la Chine entraînerait une réaction de l'armée japonaise.
On est en Syrie avec une influenceuse qui nous raconte sur Instagram comment elle fait visiter à des touristes européens les zones de guerre de son pays.
En l'occurrence, un champ de bataille où l'armée vaincue de Bachar al-Assad a abandonné ses chars d'assaut et ses pièces d'artillerie. On appelle ça du dark tourism, du tourisme macabre. C'est un phénomène dont on parle depuis quelques années. Ces voyageurs de l'extrême comme vous, hein, Christelle Rebière, hors reporter de guerre, hors humanitaire, des touristes a priori lambda qui évitent les plages ensoleillées ou les stations de ski en hiver au profit des coins les plus dangereux de la planète, Iran, Syrie, Corée du Nord, Sud-Soudan, etc. Aux États-Unis, une société d'études de marché, Global Industry Analyst, vient tout juste de publier ses prévisions pour ce secteur en plein boom, hein, si vous me passez l'expression. Pourquoi ? Parce que la tendance est évidemment boosté par les réseaux sociaux, près de la moitié des touristes de la Gen Z, les 20-25 ans, vont chercher des conseils de voyage auprès de qui ? Eh bien, d'influenceurs sur TikTok, Insta, Snap, etc. Parmi eux, beaucoup vous disent qu'un spritz en Italie, c'est bien sympa, mais qu'un détour par Tchernobyl en Ukraine, c'est beaucoup plus sexy. Le dark tourism, c'est un marché qui pèse 35 milliards de dollars aujourd'hui et qui grimpera à 41 milliards d'ici à 2030.
C'est sidérant, le dark tourisme qui rime avec cynisme.
Absolument.
À demain, Guillaume. La suite, c'est Écrire le monde, notre rendez-vous littéraire du mercredi avec Ilana Mor-Youssef.
France Inter. Un jour dans le monde.
À l'heure où l'on parle d'ingérences étrangères, de volonté de déstabiliser les démocraties occidentales par tout un tas de moyens sophistiqués, intéressons-nous ce soir à l'une des plus extraordinaires opérations de la CIA. Du début des années 50 à l'effondrement du bloc communiste, l'agence américaine a abrité en son sein un programme du livre chargé de faire passer à l'Est des ouvrages interdits.
Cette histoire presque attendrissante quand on pense aux technologies employées aujourd'hui pour faire basculer les opinions est racontée par l'ancien chef du service international du quotidien britannique The Guardian. Charlie English, passionné par la culture en temps de guerre, vient de publier une enquête intitulée « Le Book Club de la CIA ». Il raconte comment, sous l'impulsion d'un certain George Minden, émigrés roumains, la CIA a acheminé 10 millions de livres, revues et journaux de l'autre côté du rideau de fer. Comment s'y prenait la CIA ? Eh bien, par toutes sortes de moyens. En contrebande, dans des camions, à bord de voiliers, par la poste, dans des boîtes de conserve, des paquets de Tampax, l'archipel du goulag de Solzhenitsyn est même arrivé à Moscou, dissimulé dans une couche de bébé. Certains épisodes, racontés par Charlie English, sont dignes des meilleurs films d'espionnage.
Quelqu'un se rendait Gare du Nord à Paris. Il y avait un transcontinental qui faisait Paris-Moscou pendant la guerre froide. Un type montait à bord du train, il allait dans les toilettes d'une voiture donnée, dévissait le faux plafond, poussait la valise de livres à l'intérieur du faux plafond et il le refermait. Ensuite, il passait un coup de fil en Pologne et donnait un code pour désigner la voiture dans laquelle la valise se trouvait. Quand le train arrivait à Poznan, quelqu'un de l'opposition montait dans le train, dévissait à nouveau le faux plafond, il récupérait la valise et la livrait à Teresa à Varsovie. And deliver them to
Teresa in Warsaw. La Teresa dont il est question ici était une dissidente. Elle gérait une espèce de bibliothèque mobile, car une fois parvenue à l'Est, chaque livre ou magazine circulait sous le manteau parmi des lecteurs avides.
Mais quel genre de livre, Ilana, était envoyé à l'Est ?
Alors c'est ça qui est amusant, on trouvait absolument de tout, c'était très éclectique, comme en témoigne ce passage du livre.
Vu d'aujourd'hui, le programme littéraire de la CIA paraît presque pittoresque. Son but était politique, mais il ne s'agissait pas de mentir ou d'endoctriner. C'était une offensive de la pensée libre et honnête, selon son responsable, George Minden. Il pensait que cela fonctionnerait parce que la vérité est contagieuse. Si les livres parvenaient aux habitants du bloc soviétique, ils auraient un certain effet. L'opération est l'une des plus vastes jamais entreprises par le renseignement. La CIA envoyait aussi bien des magazines sur papier glacé, comme Marie Claire et Cosmopolitan, que des exemplaires de la New York Review of Books, des œuvres des prix Nobel Boris Pasternak, Czeslaw Miłosz et Joseph Brodsky. Des œuvres de Hannah Arendt, Albert Camus, des romans de Philip Roth et Kurt Vonnegut, des critiques littéraires, des pièces de Bertolt Brecht, des thrillers d'espionnage de John le Carré, pour n'en citer que quelques-uns. Quelques vétérans accusent les Américains d'essayer de voler à la Pologne le crédit de la victoire, ou craignent de se voir attribuer le rôle de pantin aux ordres de la CIA. Rien de tout cela n'est exact. La CIA a soutenu les dissidents plus qu'elle ne les a dirigés. Dans une telle situation, comme l'a déclaré un dissident, j'aurais presque accepté l'argent du diable en personne.
Charlie English a rencontré ceux des témoins et acteurs qui sont encore en vie. Il montre l'impact de ces lectures sur le climat politique dans le bloc de l'Est. Un travail d'érosion lent mais efficace. Peut-on pour autant dire que les livres ont gagné la guerre froide ? Pas tout à fait, mais ils ont joué un rôle, explique Charlie English.
Dire que les livres ont gagné la guerre froide serait exagéré. Bien sûr, il y avait beaucoup de facteurs en jeu, principalement l'échec des systèmes économiques du bloc de l'Est. Mais je crois que ces livres ont vraiment eu un impact puissant, surtout quand on pense aux faibles moyens que cela a demandé à la CIA. On parle de 2 ou 3 millions de dollars par an, pas beaucoup plus. Ces livres disaient aux gens des choses que leur gouvernement ne leur permettait pas de savoir. Des relations difficiles entre la Pologne et la Russie, le massacre de Katyn. Cela a aidé à créer une génération de dissidents qui sont ensuite devenus le mouvement Solidarnosc en Pologne.
Le plus amusant dans cette histoire, en dehors de son aspect pittoresque, enfin pittoresque on le dit avec le recul, c'est que Charlie English a dû faire une véritable enquête, car aujourd'hui, 35 ans après la chute du communisme, le programme du livre de la CIA est toujours classé secret défense.
Voilà, le book club de la CIA, ça fait très envie, de Charlie English, traduit de l'anglais par Christophe Mercier et publié aux éditions Les Équateurs. Merci Lana, la semaine prochaine nous sommes à la mi-temps de ce 18-20. La suite c'est le journal de François Geffrier et puis le téléphone sonne. Bonsoir Lionel Thompson.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de l'émission ce soir.
Consacré aux écrans et aux seniors, on parle beaucoup des réseaux sociaux concernant les jeunes, leurs méfaits, leurs bienfaits. Mais qu'en est-il des seniors, presque aussi accros à WhatsApp, Facebook ou Instagram que leurs petits-enfants? Ainsi René, 80 ans, je ne pourrais plus me passer d'internet, je vis avec le progrès, nous dit-elle. Françoise, 62 ans, a affirme être une geek avérée pour des jeux en ligne, de la musique ou des infos. Il y a même des influenceurs ou influenceuses seniors. On s'interrogera tout à l'heure sur ces usages, les bénéfices et les travers ou pièges à éviter.
Appelez-nous 01 45 24 7000.